Pourquoi Ghostbusters, les chasseurs de fantômes? Qui sont ces fantômes qu'on part traquer ici? On ne peut pas les saisir, mais ils sont là, et ils font peur. On dit fantômes, mais ça pourrait être des clichés, des catégories pas très fines, des projections que l'on fait sur les autres, des assignations.
On est toujours l'autre de quelqu'un. Et par les temps qui courent, avec tous les gens qui arrivent, tous les gens qui partent, et entre ceux qui veulent partir, ceux qui veulent venir, les jeunes, les anciens, les anciennes, les locaux, les néos, les militants, militantes de l'ultra-gauche, les agriculteurs de la FNSEA, les féministes, les chasseurs, les diplômés, les exilés, et bien d'autres, entre nous toutes et tous qui habitons cette campagne, ça paraît parfois difficile de cohabiter.
Souvent, ça grince. Et ça grince d'autant plus chez nous, à la campagne, qu'on habite tout près les unes des autres et qu'on se croise tous les jours. À moins, justement, qu'on ne se croise jamais, alors même qu'on habite le même hameau.
En cherchant la ligne de séparation, cette ligne autour de laquelle se constituent de part et d'autre les préjugés, on se rend compte qu'elle est flottante et qu'elle se démultiplie. Il y a celle entre les vieux et les jeunes, celle entre les gens du coin et les gens qui viennent d'ailleurs, celle entre les chasseurs et les néo-ruraux, celle entre les gens de gauche et les gens de droite, entre les babacools et les fachos, entre les chevreuils et les chasseurs.
Alors c'est quoi? Une histoire d'ancienneté? De mode de vie? De rapport ville-campagne? D'âge? De capital économique? Culturel? Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est toujours du bon côté des binarités.
Toutes ces catégories, ce n'est pas seulement des clichés ou des malentendus. Il n'empêche, ces entités auxquelles on appartient ne sont jamais qu'un petit bout de ce qui nous définit. Traquer les fantômes, c'est chercher à entendre ce qu'il y a derrière les cases auxquelles on nous assigne ou qu'on assigne aux autres.
La radio, ça permet de faire entendre les différentes voix, et même de créer un dialogue imaginaire qui permette de faire la part des choses entre les désaccords réels et les désaccords fantasmés, alors qu'on ne se parle pas.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse.
Si t'as le bec fin, les cafés si mettent la vin, vie sur orbite de la vie générale. Les bonjours et bonsoirs, à un rythme fou, y dérèglent le temps. Et puis, la circulation du comptoir aux tables, les titres des journaux que lisent les voisins, les éclats de verre, de voix, le monde en sourdine, la coulée d'un silence amoureux, le désespoir d'un dos ou la prédiction d'un rond de fumée, tout y influence l'état d'âme. Le café, c'est cet espace particulier où l'on va pour se voir, ou bien pour être seul mais entouré, pour se parler ou juste pour être là. Un espace et un temps sans rendement, sans l'injonction d'avoir à faire quelque chose. Ce soir, pour continuer notre exploration de la vie locale, nous sommes partis d'un événement très récent, la fermeture du bar de Varin. Une annonce rapide, inattendue, difficile pour les employés du café en question, et aussi un village qui regrette déjà son bar et se demande avec angoisse à quoi ressemblera demain sans ce lieu névralgique. Quel rôle joue le bistrot dans les villages de campagne? Repère central de la vie des habitués, refuge providentiel au cours de la balade, lieu de nouvelles rencontres ou rendez-vous rituel de fin de marché, les sociabilités qui se jouent au café sont nombreuses, diverses. Le café est d'autant plus important à la campagne qu'il est une denrée rare. Il y en a peu, donc tout le monde va dans les mêmes. Les frontières qui existent presque partout, celles qui nous taraudent à Ghostbusters, semblent ici se diluer un peu. Parmi les amateurs et amatrices du café du coin, des personnes de tous les âges, de tous les genres, toutes les origines et de toutes les classes sociales. Les croisements qui y ont lieu sont-ils toujours positifs? Sûrement pas tous, mais ils ont le mérite d'exister. La confrontation est souvent plus féconde que l'indifférence. Dans une société où le commun se construit de moins en moins dans les rapports à l'église, au travail, à la famille ou au simple voisinage, le bar semble être un repère pérenne, solide, où l'on peut prendre part à une vie sociale. Qu'est-ce qui se passe quand le café ferme? Et qu'est-ce que cela raconte de nos manières de nous rencontrer et de tisser des liens? C'est ce que nous vous invitons à écouter ce soir.
passe. Une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Vendredi 21, les employés du bar des sports à Varin apprennent sa fermeture. C'est un coup dur pour le village. Samedi, l'émotion était palpable. Les habitués, les employés, tout le monde était triste et se retrouvait pour honorer cette dernière soirée. Elle fut belle, pleine de promesses. Elle fut traversée par une partie du village, des gens différents, des groupes, de la musique, de la douceur, de l'alcool, de la gratuité pour tous, et le sentiment qu'il ne fallait pas lâcher ce bar. Le sentiment aussi qu'on était ensemble, avec toute la joie que cela procurait. Qu'allons-nous faire maintenant ? On va errer dans les rues en se cherchant, ai-je entendu. Alors, ce lundi, à 10h, nous voilà devant le bar clos, avec les employés et les habitués du café du matin.
T'as rien à nous dire ?
Et puis, moi, je suis content qu'on soit aussi nombreux. Voyage à net, je ne sais pas où aller, mais c'est quoi ça ? Je lui ai dit de ne pas le faire le lundi matin.
L'info est passée, mais évidemment, il y a des gens qui ne l'ont pas encore et qui les habitués de plus tard dans la semaine vont peut-être le découvrir aussi à ce moment-là. Moi, j'ai juste vu un post sur Facebook de l'affiche qui a été mise, mais par
c'est pas Patrice Affaire.
Je sais que le patron est
là. Patrice Affaire, il est créatrice.
Et le patron, en tout cas, l'a bien annoncé sur notre page du bar des sports. Donc, en fait, il y a...
Sur
Varin pour tous, je crois. Et en fait, c'est la photo de l'affiche...
Oui, mais c'est sur la commune de Varin. C'est le mot avant. Allez, sur Facebook, là.
Et vous, le patron, vous avez dit quoi ?
Moi, je l'ai appris à 17h vendredi, quand j'ai pris mon service, en fait.
C'est le patron qui t'a dit à 17h ?
Officiellement, en fait, j'ai retrouvé Sylvie en pleurs dans la réserve.
Elle me l'a dit à 14h.
Donc, elle me l'a dit
samedi.
Et je lui ai dit que j'étais sur place et qu'il pouvait venir me le dire, mais que, évidemment, j'ai demandé à Sylvie pourquoi elle était dans cet état. Du coup, c'est tout frais. J'avais pas prévu de plus avoir. Enfin, que c'était le dernier service, quoi.
Il vous a pas informé par écrit ?
Non. On n'a pas reçu encore aucun, rien du tout d'officiel. Et là, apparemment, on attend l'appel du liquidateur, nous, en tant que salariés. Il est recommandé, j'imagine, qu'ils vont acter ça. Sous quel délai, je n'en sais rien.
Parce que là, il y a quelqu'un qui devait travailler ce matin, normalement.
Qu'est-ce
qu'on va faire le lundi matin ?
Si. C'est Christophe qui me remplaçait parce que moi je suis censée être en vacances scolaires.
Mais Christophe, il a été informé que.
Christophe, il l'a appris par Facebook. Et Alex l'a appris par le bruit du village. Donc, et on a dit à Jérôme que nous on se sentait pas de ne pas le dire aux clients. L'info est connue depuis quand ? Je n'en sais rien.
C'est des mois et des mois. Hein.
Je pense qu'il a été très très surpris que le tribunal ordonne une fermeture immédiate.
Never have we caught a glimpse of this man.
puis samedi matin, ben voilà, quand on rencontre quelqu'un, ben, on ne parle que de ça. Ah ben le bar ici à Varin, c'est le centre du village. C'est là qu'on se retrouve tous les matins. Peut-être que Louise en a déjà parlé, mais on se retrouve tous les copains, parfois très nombreux, parfois moins nombreux, mais on papote, on se raconte les... On n'a pas besoin d'acheter le journal. On apprend tout entre nous. Et puis là, ça nous fait vraiment mal au cœur parce que bon, on est choqués. Et puis, tant que je tiendrai le coup, tous les matins, je viendrai avec mon thermos de café. Et tous ceux qui voudront viendront aussi.
J'ai jamais vécu ça. Et pareil, qu'est-ce qui se passe aussi, outre notre côté salarié, sur s'il y a un acheteur qui se propose, est-ce qu'on fait encore partie de la masse salariale? Est-ce qu'on doit être licencié par ce nouvel acheteur? Enfin, il y a plein de petits sous-chapitres là qui sont très... Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose que... d'être acheté, je sais pas, parce que c'est que des montages juridiques et financiers, tout ça, hein, en vrai, il y a plein de gens qui ont des idées, il y en a d'autres qui ont de l'argent, voilà.
C'est bien que tu rencontres ces gens, c'est pas souvent.
Voilà, moi j'avais des idées de faire une coopérative, hein, de vendre des parts à 100 euros, et puis essayer de rassembler les fonds nécessaires. Ce serait géré comme une coopérative et le but n'est pas de faire des bénéfices ni de faire des pertes non plus parce que bon, je crois qu'il y a moyen de gérer ça, mais quand même avec une base de deux professionnels, quand même une personne derrière le bar et une personne à la cuisine, et ça on les avait. Voilà ce que je peux dire. Ah ben là je vais dire que ça fait depuis que Jérôme avait repris, ça se passait bien. Bon, il y a eu la période du Covid qui était difficile. Hein, il a même eu des ennuis à l'époque parce qu'il voulait continuer à ouvrir. Mais alors, les précédents, moi je le connais ici depuis 10 ans. Il y en a eu plusieurs, ça a fermé, ça a réouvert, ça a refermé. Bon, lui, il a voulu tenir le coup. Mais moi, je pense que je vais aller voir le maire, voir si on peut faire quelque chose et que la mairie puisse aussi apporter son aide. Parce que c'est plus important que gérer un café, c'est un lieu social. Et même le magasin à côté, bon, il y avait des gens qui venaient prendre un café, puis qui allaient faire une commission. Donc eux aussi, ils vont sentir la différence. Ou il y avait des gens qui venaient faire une commission, puis ils voyaient un copain, hop, ils venaient prendre un café ou autre chose. Et l'été, c'était tellement agréable. Là, il a installé le tonnel. Et très tard le soir, on voyait que les gens venaient. C'était plus à but social qu'à but financier.
Ce serait bien que pour l'été, il y ait trouvé une solution, mais est-ce que le délai administratif va nous permettre d'être aussi réactif? Je ne sais pas. Je tiens au courant. Je vais essayer de choper un papier, un crayon pour prendre les coordonnées des gens. Parce que sûrement créer un groupe pour se donner des infos. Et ça se trouve, ça ne servira à rien. Hein, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas où on va.
Dommage, il serait là.
En tout cas, ce qui est... agréable, c'est que ça touche beaucoup de gens et des gens très différents les uns des autres. Il faut qu'on se serve de cette émotion, voilà. Je pense.
Vous allez entendre trois textes de trois autrices différentes qui ont pour sujet les toilettes des bars et des cafés. Dans ces toilettes de bars et de cafés entreront successivement un enfant, un homme et une femme. Annie Saumon, dimanche matin, au Café du Commerce. Paru dans Si on les tuait, au Luno Astico Éditeur. Oui, tout à l'heure. Tiens-toi droit. Ça lui va bien, cette teinte. Prune, on dit, je crois. Les prunes de cette couleur-là, énormes et luisantes, on les appelait des bœufs, ou bœufs, ou bœufs, ou bœufs, je sais pas comment ça s'écrit. J'en ai pas vu depuis 20 ans. C'était beaucoup trop gros pour qu'on les avale d'un coup. Ça se mangeait en plusieurs bouchées. Et d'abord, on les astiquait longuement sur un coin de tablier. Remarque, elles n'étaient jamais aussi bonnes qu'on aurait cru. Goût d'eau.
L'eau n'a pas de goût, maman.
Tiens, tu l'entends, ce gamin. Il a l'air dans la lune, et puis le voilà qui ramène son grain de sel, faut toujours qu'il s'en mêle. Moi, ça m'évoque une tumeur. Je suis un peu obsédée par les tumeurs, ces rapports à la totale que j'ai eu l'année dernière. Parce qu'il m'avait découvert un kyste malin aux ovaires. Oh, mais à présent, Mona, ils savent s'y prendre, ils raclent tout, tu crains plus rien. Je vais acheter ça au prix unique. J'aimais bien la couleur. Prune, bonne coupe, une occasion. La qualité n'est pas terrible, mais les enfants, ils se développent si vite. Allonge, forcis. J'aime qu'ils soient habillés aussi bien que les autres. Hein. Et puis, il faut voir ce qu'on leur paie aux gosses à notre époque. Des fortunes que les gens dépensent pour les fringuer. Prune, c'est mode. En bleu marine, il avait l'air d'un pensionnaire d'orphelinat. Table carrée, chaise en tube métal avec siège imitation serpent, cendrier de plastique rouge et noir. Ici, on est pas mal. Le patron, je le connais. Question de tenue, il est féroce. Hein. Les loups-bars, il en veut pas. Et t'as vu comme il est baraque? Donc, Mona, tu disais, la main aux ongles verts appuyée sur la table, paume à plat, deux tasses de faïence blanche à dessin géométrique d'un brun tirant sur le roux, deux tons de brun, ou peut-être trois, mais sous l'éclairage au néon, les nuances ont tendance à disparaître. Pas mauvais leur café, hein? Mais qu'est-ce qu'il veut encore, ce môme? Et arrête de gigoter! Bon, pour le petit, une grenadine. Et nous deux, si on s'offrait un kir. Allez, Mona, c'est ma tournée. Tu m'as l'air drôlement en forme, Régine. Oh, ça dépend des jours, hein. Un matin, je vois tout en rose, et puis le lendemain, c'est le noir absolu. Moi, ça va jamais très fort, puis qu'ils m'ont tout enlevé. Ah, au moins, t'as pu être tracassé pour la pilule qu'on devait prendre et qu'on oublie. Hein. Toi, t'es sûre et certaine de jamais te retrouver avec un lardon sur les bras et le père en cavale. La copine aux ongles verts, Mona, dit que le gosse est si mignon, un vrai petit prince, avec ses cheveux frisottés qui sortent du capuchon, prune. Ah ouais, la couleur, elle lui va bien. Et puis, c'est pas salissant. Allez, mouche ton nez, tiens-toi droit.
Mais j'ai gros besoin, maman.
Eh ben, vas-y, c'est la porte, là-bas. Avec l'inscription toilette, tu sais lire. Et lave-toi les mains, après.
J'ai peur d'aller tout seul, maman.
Ah, alors t'attends qu'on rentre à la maison. La table en simili acajou. Cette goutte de kir, violette, sur le cendrier blanc. L'ongle vert gratte une tache de brûlé. Ah, les hommes avec leurs cigarettes, on a beau leur donner des cendriers. Hein. Mais je savais pas que tu fumais, Régine. Ouais, pour me calmer les nerfs, mais je vais me mettre au yoga.
Maman, j'ai besoin encore plus.
Mais vas-y, que je te dis. Ah, tu vois, Mona, c'est pas simple de lui faire comprendre, c'est plus un bébé. Il voudrait bien que je le torche et puis il reviendrait jouer à dire qu'il est le vaillant chevalier jetant la peau à les boulets. Mais c'est ça, l'éducation, lui ramener les pieds sur terre. Je vais pas céder à ses caprices, hein. Ah bah, il s'est quand même décidé à y aller tout seul, au privé. Verrou là-haut, qui tourne à droite ou à gauche, on ne se rappelle plus. S'il se bloque, on est perdu. Elle savait, elle a fait exprès. Est partie. Le patron va frapper à la porte. Doucement d'abord, puis très fort. En rage, il a fendu la porte avec sa hache. La traversée d'un coup de deux harpons à baleine. Comme un fou. Ouais, taché, gâché, la Norac neuf. Des habits neufs, on n'en veut plus, c'est trop de tracas après. Elle dit que c'est couleur prune. On aimerait être comme les autres. Les autres, ils n'ont jamais peur, ils sont pas en prune, ils sont en bleu marine. Et leur mère, elle s'arrange pour qu'ils fassent caca à la maison. Si ça ouvre pas tout de suite, on va manquer d'oxygène. Si on crie, le patron s'amène. Et il est tellement sauvage qu'on n'ose pas crier. La frousse, Régine, ça vous démolit, hein, quand chaque matin, en ouvrant l'œil, on se retrouve dans le noir de l'épouvante. On vous conseille de pas perdre courage, de vous faire une raison. Bon, je finirais bien par me suicider de peur de mourir, c'est bête.
Ah, tiens, mais le voilà revenu. Mais qu'est-ce qu'il a donc à pleurer? Eh bien quoi, tu pouvais pas appeler? Il reste enfermé dans les lieux sans même taper à la porte. T'es pas un peu demeuré? Arrête de gigoter. On prend encore un kir, Mona? Allez, pour le petit, une grenadine. Moi, j'ai confiance, ça va s'arranger, ton histoire. Surtout, te laisse pas aller. Ce qu'il faut, c'est ne jamais s'abandonner au désespoir. Oui, je l'ai gardé, ce gosse. Bien des femmes s'en seraient débarrassées. C'est comme une tumeur, et puis on s'habitue. Pareil qu'en prenant un produit, là, un machin vraiment corsé avant la 6e semaine, ça se transforme en eau et on peut expulser le tout dans les toilettes. À quoi ça tient la vie, quand même? Bon, toi, te vois la remise d'aplomb, t'as pas mauvaise mine. Ce maladie-là, somme toute, y a un tas de gens qui en réchappent. Un mauvais moment a passé, on n'en parle plus après. Alors, tu vois, t'en es pas mort d'aller tout seul au cabinet?
Alors, c'est quoi ta meilleure soirée au bar?
Je sais pas si c'est ma meilleure soirée en vrai, la verdade, mais je vais quand même raconter ça parce que c'était mon anniversaire du coup. Et c'était quand même la première fois de ma vie que je faisais mon anniversaire dans un bar. Et du coup, c'était au bar de Varin. Et moi, j'habite à Varin. Je suis une néo, quoi. Enfin, j'ai grandi dans la campagne quand même. Le bar, moi, je trouve assez fou la mixité qu'il permet. Et on, quand même, assez souvent, il traînait régulièrement. Et du coup, j'ai quand même organisé mon anniversaire ici et un karaoké. Il y a mes parents qui sont venus, ce qui pour moi est un peu une petite folie. Et, j'avais aussi invité. Mais du coup, je sais pas, il y avait tous les personnes que je connais, avec qui je traînerais pas de base, qui sont juste tous les vieux gars du village avec qui le lien il se fait clairement au bar et qui sont venus et qui ont passé la soirée là et qui ont pas chanté, mais c'était trop beau de voir les petits vieux, les petits potes du village qui étaient là. Il y a eu une scène où Alexandrine, du coup la serveuse, elle a chanté avec ma maman et avec ma cohabitante et du coup c'était un mélange des milieux trop chouette.
C'était quoi la chanson?
C'était Envole-moi de Goldman. Et après, avec mon papa, on a chanté du Cabrel. Mais
il y a une liste, si tu veux, qui tourne avec des mails numéros. Oh. Si tu veux être au courant de...
Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vous dire
l'orage, pour attendre des nouvelles de la liquidation judiciaire.
On campait de l'autre côté de la rivière, de Varin, ici, avec mes parents, pendant 2 mois, tous les ans. Donc je connais beaucoup de monde ici, j'ai plein d'amis.
Et vous étiez un enfant à Paris?
Oui. Moi, j'ai connu que des belles périodes, franchement. À partir du moment où c'est ouvert, où les gens qui l'occupent sont sympas et ouverts, ça se passe bien, quoi. Le bar du village, c'est pour nous quelque chose de super important parce qu'on s'y retrouve tous. C'est quelque chose de convivial. C'est des rencontres avec les amis, avec des nouvelles personnes qui arrivent, qu'on accueille toujours avec bienveillance. Et ça va nous manquer considérablement. Ouais, ça rend tout le monde très triste. On a perdu une boulangerie déjà ici. Ça, c'était vraiment aussi important. Bah, je l'ai appris en même temps que les gens qui travaillent ici, en fait.
Vendredi,
ouais.
Donc là, on est lundi et c'est fermé, là. Ouais. On n'a plus le droit d'ouvrir. Donc c'était quand même très, très rapide, quoi.
Ouais, essayer de tous ensemble retrouver quelque chose qui puisse, puisse nous permettre de revenir ici rapidement. Quoi.
C'est là, le matin, là.
C'est un peu une forme de soutien aux gens qui y ont travaillé. On va essayer de continuer à occuper un peu les lieux, en quelque sorte.
Non, par contre, moi, j'ai un petit stock de photos de cet été, quand ça avait fait les danses folkloriques sur la route, quand il y avait le bar d'homme.
En tout cas, on avait découvert le bar, parce que du coup, on habite dans le village, et on n'y allait pas souvent au bar. Et il y a une fois, on était passé complètement par hasard pour boire un coup, et en fait, c'était un karaoké. Et on avait passé une soirée de folie, quoi, animée par Caralin. Je recommande les karaokés animés par DJ Caralin. On a découvert cette passion karaoké, et après, on a refait quelques soirées assez épiques, ouais. Quand je travaillais une fois au bar, on avait fait un... Comment on appelle ça? Un, deux, trois soleils dessinés sur la route. Il y avait une jeune qui avait genre qui avait 12 ans, qui était la fille d'une autre employée, qui avait commencé à dessiner ça, une marelle, ouais, voilà, une marelle sur la rue, et on a commencé à jouer un, deux, trois soleils après la marelle sur la rue, avec des gars de la SNCF qui bossaient là, et des habitués, et nous, enfin, bon, c'était trop marrant.
Et toi, ça a fait quoi dans le village de travailler au bar?
Du coup, j'ai rencontré un peu tout le monde du coin, quoi. Je pense qu'on n'aurait pas eu du tout accès à ce genre de rencontres sinon. Et des trucs tout cons, de se prêter du matos, de s'entraider aussi sur des galères de logement, des coups de main, d'aller filer des coups de main sur des chantiers, enfin... Ouais, juste du lien de voisinage qu'on n'avait pas forcément avant. Et parce que je pense qu'il y avait aussi de la projection de, des deux côtés de nous, notre coloc sur les gens qu'on ne connaissait pas et de nous, ce qu'on pouvait dégager au sein du village, quoi. Moi, j'ai quand même appris qu'on était perçue comme la coloc de Gwyn qui ne travaille pas. Bon, c'est les dires d'une personne, mais ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au moins, ils ont vu qu'il y en avait une qui travaillait. Et ouais, juste sur ce truc de finalement se dire bonjour. Bon, après, du coup, j'ai plus accès à un bar tranquille où je peux aller voir des potes en terrain neutre, quoi. C'est juste, t'arrives au bar et y a tout le monde qui te dit bonjour. Moi, c'est ça qui est trop cool. Je peux même plus aller au Vival discrètement. Enfin, à un moment donné, j'étais en mode, ah, je peux même plus aller acheter un petit paquet de chips tranquillement sans que t'aies les gens du bar qui soient en mode, hello, tu fais quoi?
Beaucoup de soirées au bar, mais ouais, le karaoké c'était quand même un truc. Ça a bien brassé, et le fait que ça se fasse aussi dans le bar, je pense qu'il y a quelques personnes qui étaient juste venues là par hasard et qui sont restées en disant ah, c'est cool. Moi, je sais, quand je suis arrivé dans le village, ça m'a trop touché qu'il y ait ce bar, et de voir aussi que c'est peut-être vraiment les gens qui en faisait quelque chose aussi, parce que les personnes qui y travaillent a laissé la place pour ça, pour je sais pas, le dimanche soir c'était devenu un peu un rendez-vous quand c'était ouvert, pour aller jouer au Scrabble ou au Yams, enfin c'était, je sais pas, un endroit un peu neutre où bah typiquement, oui, on va peut-être pas trop s'inviter chez soi. C'est un peu touchant que ça ferme comme ça. Bon, après, pour ça faudrait que ça réouvre, je sais pas trop sous quelle forme. Moi, je trouvais ça trop bien que ce soit les salariés, et que ce soit elles, leur patronne, en fait. Parce que c'est elles qui le font tourner. Et il y aura le soutien populaire du chasseur, des Anglais et des schlags. Je sais pas, ça fait un beau mélange. Et c'est assez rare, quand même. Et c'est bien qu'il y en ait un peu dans chaque village, parce qu'on va pas... Bah non, on va pas aller à Verfeil, quoi.
Bah, non. Y a une petite route d'enlacée comme ça, là, le
bar. Mais c'est clair.
C'est con, franchement.
Prévention, en fait, d'avoir un bar dans son village.
C'est con, mais en termes d'alcoolisme français et rural, je pense que c'est bien que les gens ils puissent rentrer à pied ou en voiture à 200 mètres plutôt que.
Et puis, il a l'image de notre village. On est des gens d'ici, d'ailleurs, de plein d'idéologies différentes. Le bar de Varin, il a cette magie de réunir des populations très différentes que n'arrivent pas forcément à faire nos voisins. Où chacun a son adresse en fonction de sa communauté de base, on va dire, et que nous, au bar des sports, on arrivait à avoir les retraités, les jeunes qui arrivent ici, nous, les petites familles, les enfants étaient les bienvenus. Tous les midis, moi j'avais 80% de ma clientèle, c'est des gens qui viennent tous les midis à la même place, à la même heure, enfin, sans oublier qu'on est un établissement qui employait 5 personnes. L'emploi ici est compliqué. Et qu'un établissement qui met 5 salariés sur le carreau, c'est pas rien. Les enfants s'y sentent bien, j'ai dit, dans ce bar.
Toi, tu venais prendre ton goûter ou pas, Roman?
Mmh. Oui.
Oui.
Toi, tu aimais bien prendre ton cacolac?
Oui.
T'as autre chose à dire sur le bar?
C'est pas.
Moi, je sais que je suis pleine de tristesse, un peu de colère peut-être, un peu de... Mais en fait, j'ai l'espoir que ça peut réveiller aussi un village.
C'était quoi la dernière soirée du bar?
Bah alors déjà, on a appris très tardivement qu'elle allait avoir lieu, parce que je suis passée le samedi midi, et que Pierrot m'a dit que c'était la dernière soirée le soir. Et après, je sais pas, je pense que je suis arrivée vers 19h, je pense que déjà, tout le monde avait commencé à bien fêter la fin. Il y avait une espèce d'ambiance quand même assez particulière, où il y avait beaucoup de tristesse. Il y avait les deux... Il y avait plusieurs personnes qui bossaient et qui avaient appris un peu soudainement quand même qu'elles n'avaient plus travaillé là. Du coup, il y avait quand même une énergie un peu particulière, je trouve, genre de... Ouais, je sais pas. D'émotions palpables. Et après, on n'était pas beaucoup, on était une grosse vingtaine. Et on a commencé par revisiter tous les classiques du rock'n'roll en changeant de génération, ce qui a créé un peu de grabuge. Un petit choc générationnel quand même sur la découverte du punk actuel. En tout cas, on a eu des moments de retrouvailles sur des moments de rock'n'roll. D'ailleurs, j'ai une vidéo de ça, sur un moment de rock'n'roll où tout le monde danse. Donc c'est assez rigolo. Et ouais, je dirais que c'était une soirée assez mémorable parce qu'il y avait beaucoup de joie, de tristesse... Plein de gens avec qui on n'aurait pas fait la fête ensemble, enfin plein de gens différents qui n'étaient pas forcément amis de base mais qui se retrouvaient ensemble à fêter la fin de cette aventure. Et avec quand même un truc de, je trouve, de prise de soin générale, de, bah, d'être attentif et attentive aux gens à qui ça fait plus de tort. La petite cagnotte pour Sylvie, le ménage collectif de fermeture du bar. Mais là, d'aller quand même... Passer, de finir aussi tard et aussi éméché avec autant de personnes avec qui d'habitude on fait pas trop la fête, c'était quand même assez rare. Et c'était quand même très marrant et très agréable. Mais ça m'a surpris que justement tous les habitués ils soient pas là non plus. Enfin, je sais pas si en début de soirée ils étaient là, tu vois, mais qu'ils non. soient pas là pour. Non. Parce que du coup, moi quand je suis arrivée et que Pierrot m'a dit que c'était fermé, c'était le midi et ils étaient tous là vu que c'était après le marché. Mais bon, aussi, je me dis, vu que ça a été dit au dernier moment, peut-être que tout le monde avait, je sais pas, des trucs de prévu, des repas, des machins, et que du coup, ils sont pas revenus exprès, quoi, je sais pas. Mais je me dis quand même que cette soirée-là, parce que j'avais des potes qui sont arrivés il y a pas si longtemps que ça, et qui disaient, ah, c'est incroyable, on était en lien avec plein de gens du coin et tout, et je me dis, c'était aussi vraiment... C'était tous les marginaux, en fait, du village. Enfin, de près ou de loin, c'est que des gens qui sont arrivés soit récemment... ou qui sont, pour je sais quelle raison, pas considérés comme vraiment du coin, qui se sont retrouvés ensemble. Et du coup, je trouve ça marrant que tous les gars, ouais, je sais pas, qui sont au comité des fêtes, au club des pétanques et tout, bah bon, ils étaient pas là, on n'était pas ensemble à ce moment-là non plus, quoi. C'était tous ceux qui avaient rien prévu leur samedi soir ou...
Sarandin, Mauvais goût, aux éditions Hystérique et Associés. Je dois rejoindre ma pote Fiona au bar à 7h. Ça va probablement finir à l'envers, étant donné que cette meuf picole autant que moi, c'est-à-dire jusqu'au bout. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était en train de s'embrouiller avec un mec dans une boîte de merde, le genre à fermer plus tard que toutes les autres, où on regrette toujours d'être allé. Elle prétendait qu'il lui avait tripoté le cul
honnêtement jamais su si c'était vrai, ou si elle cherchait simplement un moyen de mettre un peu d'animation dans cette matinée. Toujours est-il que j'avais fini par lui prêter main forte vu que le mec se rebiffait. Il levait sa main bien droite comme une gifle éternellement suspendue qui ne claquerait sur aucune joue. Un signe qui n'allait pas se faire marcher dessus. On aboyait comme deux enragés, on brandissait les grands mots et les grandes valeurs pour bien lui en remontrer. Je revois encore la scène. Au bout d'une dizaine de minutes, le mec en a plus que marre. Il se casse aux chiottes en nous disant d'aller nous faire foutre et laisse sa veste sur le tabouret du bar. On se regarde, 5 secondes. Je glisse discrètement la main dans la poche de droite, Fiona dans celle de gauche. Elle récupère le portefeuille, moi les clés de sa caisse et peut-être aussi de chez lui, je me souviens pas bien. On sort sans trop se presser pour éviter d'attirer l'attention. Ce n'est qu'une fois dehors qu'on se met à courir. Je balance les caisses sur une grille d'égout, pas le temps de jubiler pour l'instant. Mais le geste est plus grisant que tous les verres enquillés ce soir-là.
J'ai inventé un bistrot tout près de chez moi. Pour les poètes, pour les poivreaux et pourquoi pas. Je me suis glissée dans ce bistrot à petits pas pour voyager. Dans leurs histoires qu'on ne croit pas. Il y avait trop de vent sur la mer et trop de vagues dans leurs verres. Et ils se sont noyés parfois. Et sur la terre, ils me parlaient de toutes les femmes qu'ils aimaient et de celles qui ne les aimaient pas. Mais qui, quand même la nuit tombée, dans un bordel au cabaret, se donnaient entre leurs bras.
Aurélie William Leveau, Bataille, entre parenthèses, pas l'auteur, aux éditions Cambourakis. Je cherchais quelqu'un, mais comme je ne le trouvais pas, j'ai arrêté de le chercher, et j'ai dansé à la place. J'ai dansé, dansé, dansé. Et puis j'ai eu besoin de pisser. Alors je suis allée aux toilettes. Il y avait une file de malades devant les toilettes des filles. Et elles attendaient toutes comme des gourdes, alors que les toilettes des garçons étaient libres. Je suis allée dans les toilettes des garçons, et là, un videur m'a repoussée. Parce que chacun sa file, chacun son camp, il a dit sèchement. Alors je l'ai poussée aussi, pour passer, et je lui ai dit qu'on n'allait pas se faire pipi dessus quand même, pour respecter des règles à la noix. Il m'a attrapée par les épaules pour me sortir des toilettes, et je lui ai dit de virer ses sales pattes et de me foutre la paix. Alors, comme il se sentait humilié devant toute une queue de filles qui rigolaient, il a dit qu'il allait chercher le chef de la sécurité, puisque je n'étais pas docile. Et il est parti, et je suis re-rentrée dans les chiottes des garçons. Mais à ce moment-là, le chef de la sécurité est arrivé avec 2 autres types, et ils m'ont embarqué dehors avec une grande fermeté. Le chef, dehors, il m'a demandé quel était mon problème. Et je lui ai expliqué que je n'avais aucun problème, que je voulais juste faire pipi, vraiment très fort, mais que son collègue, qui était un vrai abruti, lui, me créait des soucis. Et il a eu l'air d'accord avec moi, mais il a dit que les règles des toilettes étaient là pour nous protéger, nous, les femelles, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait nous arriver, et qu'on risquait de se faire violer si on était là, dans les toilettes des hommes, avec toutes ces bites dangereuses à proximité, que ça pouvait déraper, on ne savait jamais, un geste de travers était vite arrivé. Je lui ai dit ok, que c'était assez jésuite comme principe, que je respecterais leurs lois, mais que j'avais toujours besoin de faire pipi, ceci dit. Il a dit alors, en me tenant avec ses grosses mains de brute, qu'il pouvait m'accompagner dans les toilettes des garçons, puisqu'il était chef de la sécurité. Qu'il me trouvait pas mal, en plus. Et qu'on pourrait mieux se connaître à l'intérieur. Bon, c'était tous des abrutis, alors je suis allée pisser dans les bois. Et je suis retournée danser toute la nuit.
Et maintenant, la chronique politique. Pour cette émission, nous avons décidé de vous parler d'une actualité qui nous tient à cœur et qui se passe juste à côté de chez nous, la lutte contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Hier, jeudi 27 février, le tribunal administratif a annulé le projet et suspendu les travaux. C'est une décision historique après des années de lutte. Revenons rapidement sur l'histoire du projet. « Le projet de l'A69, c'est celui d'une autoroute de 62 km de 2x2 voies entre les villes de Castres et Toulouse. Il a débuté à la fin des années 90. Le tracé prévu de cette autoroute devait suivre à peu près le tracé de la route nationale actuelle, la RN126, et traverser le territoire de 24 communes. Ça aurait été une autoroute payante, avec un trajet coûtant aux alentours de 6 euros. En 2022, c'est l'entreprise Atosca, une filiale du groupe NGE, qui a été choisie pour être le concessionnaire et promoteur de l'A69. C'est cette entreprise, qui aurait dû, et a d'ailleurs commencé, à assurer la construction de l'autoroute, ainsi que l'exploitation du péage. Plusieurs villages sont très impactés par ce projet. Certains centres-bourgs se retrouvent à proximité immédiate de l'autoroute, ou même carrément traversés par elle, comme c'est le cas pour le village de Puy-Laurent, qui compte environ 3200 habitants. D'autres villages sont touchés par la construction et l'exploitation de deux centrales à bitume qui devaient produire les plus de 500 000 tonnes de revêtements nécessaires à l'édification de la route. Les partisans de l'autoroute défendent un projet d'utilité publique qui permettrait le désenclavement du territoire, pourtant actuellement desservi par une route nationale loin d'être surfréquentée. Depuis plusieurs années, les opposantes dénoncent l'absurdité écologique et économique de ce projet, qu'ils considèrent totalement inadapté aux besoins de mobilité du sud du Tarn et catastrophique sur le plan environnemental. Elles déclarent que dans un monde bouleversé par les changements climatiques et devant la nécessité absolue de réduire notre consommation d'énergie, les autoroutes semblent faire partie du monde du passé. À partir de 2022 et l'accélération des travaux, la critique du projet est devenue de plus en plus grande et de ce fait de plus en plus médiatisée. Le collectif d'habitantes et d'habitants, La Voie est libre, a été rejoint par d'autres associations et collectifs tels qu'Extinction et Rébellion et Les Soulèvements de la Terre, et par de nombreuses autres personnes en désaccord avec le projet. Pour rendre compte de l'absurdité du projet et lutter activement contre son édification, les opposantes ont rivalisé d'imagination. Ainsi, sur les 3 dernières années, des centaines de personnes se sont relayées pour organiser tantôt une marche parcourant les territoires devant être détruits par le futur tracé de l'autoroute, tantôt une course de bolide dévalant le contournement de la voie rapide pour dénoncer la privatisation de cette partie par le concessionnaire. Des occupations de dizaines d'arbres ont été tenues sans relâche pendant des mois, parfois au péril de leur santé, par des militantes prêtes à risquer leur vie. Des cabanes ont été construites et régulièrement détruites par les forces de l'ordre. Mais la lutte, c'est aussi des milliers d'heures de réunions, la mise en place d'enquêtes publiques, ainsi qu'un travail juridique de longue haleine pour produire les nombreux recours administratifs. Le dernier en date a été jugé ce 18 février dernier au tribunal administratif de Toulouse. L'enjeu pour la justice était de décider si le projet d'autoroute respectait ou non le droit environnemental. À cette occasion, la rapporteure publique Mona Rousseau y avait recommandé l'annulation totale de l'autorisation environnementale. Et c'est avec un immense plaisir que nous avons appris hier que le tribunal administratif de Toulouse a suivi ses recommandations et déclaré le chantier illégal au regard du droit environnemental. Dans un communiqué, il est précisé que le tribunal observe que le territoire ne présente ni un décrochage démographique, ni un décrochage économique. Ainsi, et jusqu'à nouvel ordre, le chantier de l'A69 est suspendu. Du côté des opposants, la joie est immense et les larmes sont au rendez-vous. Du côté de l'État, en revanche, ça ne rigole pas trop. Notamment pour le ministre des Transports, Philippe Tabarot, pour qui cette annulation soulève de nombreuses interrogations sur le bon déroulement des grands projets d'infrastructure en France. L'État a donc décidé de faire appel de cette décision. Normalement, l'appel n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'en attendant ce nouveau procès, les travaux ne pourraient pas recommencer. Mais l'État a demandé un sursis d'exécution pour reprendre le chantier. Mais en attendant, les machines restent silencieuses. Et nous, on s'en réjouit.
Ghostbusters, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le dernier vendredi du mois à 19h et le dimanche suivant à 13h. Ou peut-être avant, qui sait, dans un bistrot encore ouvert. À votre santé. Ouais, le commando permet un peu dans les bistrots.
travers mixte de prolétaires. Fédération Bordeaux, rassemblement Porto, Sondéa pour Cuba, Arménie, Bastis, Roi, Syndicat du Cadre, coalition Cognac, Tricot pour les barges, les Gézaltons de l'eau, Coupuscule, Armagnac, avant-garde Ricard, Front uni du whisky, offre de l'eau de vie. Résistance à une telle qu'on paramuscadet, assaut armé par mon champion de la goutte. Mouvement d'action, vin blanc, régime en blanc de blanc. Lutte pour être pour l'excès au château la fête. N'allez pas, la girafe. Il a vu, le zébu. Il est plein, le chaos.